15-16 ans, trois disciplines évaluées tous les 3 ans, maths, sciences et compréhension de l'écrit. Beaucoup de pays asiatiques ou occidentaux parmi les 80 qui sont évalués. Et Sonia Princey, selon les matières, nous sommes entre 20 et 26e au niveau de l'Allemagne et de la Belgique.
Oui, en compréhension de l'écrit, 10% des élèves obtiennent des scores élevés dans les tests et 20% sont en difficulté. En France, les résultats sont particulièrement corrélés au milieu social. Les élèves de milieux défavorisés sont 5 fois plus nombreux à ne pas atteindre le niveau minimal en lecture. C'est l'un des plus faibles scores de l'OCDE. Le ministre Jean-Michel Blanquer dit prendre ses évaluations très au sérieux, mais considère que sa politique va dans le bon sens.
Nous avons beaucoup de choses à faire progresser, mais ça ne sert à rien non plus de noircir le tableau. La situation, elle est stagnante en réalité. Sur la question des inégalités, on voit que nous restons au même niveau, c'est-à-dire que nous restons assez fortement inégalitaires. Mais l'ensemble des conclusions de l'enquête PISA corroborent un certain nombre de priorités que nous avons définies depuis 2 ans. La priorité à l'école primaire reste plus que jamais ce qui doit nous guider. Ce qui, évidemment, donnera des fruits sur la durée.
Les effets des classes dédoublées en CP et CE1 dans l'éducation prioritaire se verront en effet dans PISA en 2027, voire 2030. Dans cette enquête, les experts de l'OCDE pointent aussi 2 phénomènes inquiétants en France, que détaille Éric Charbonnier.
Vous avez 1 élève sur 2 qui déclare être gêné à chaque leçon, ou presque à chaque leçon, par du bruit. Donc ça, c'est une proportion très élevée, beaucoup plus que dans les pays de l'OCDE. Et c'est surtout, ça va nuire à la qualité des apprentissages. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y a un problème de soutien des élèves qui déclarent se sentir peu soutenus par leurs enseignants. Donc ça pose des questions.
Or, un suivi plus individualisé permettrait de mieux faire réussir les élèves.
Ajoutons, Sonia, qu'une fois de plus, ce sont des pays asiatiques qui occupent les premières places, les provinces de Pékin et Shanghai, Singapour, Macao, Hong Kong. Et parmi les pays occidentaux, l'Estonie, le Canada et la Finlande. Et puisque la majeure cette année était la compréhension de l'écrit, l'invité de notre journal est Roland Guagou, qui est professeur des universités et spécialiste de l'enseignement de la lecture. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Que retenez-vous de ce classement ?
Plein de choses, parce que j'ai passé ma soirée à lire les 1100 pages de ce magnifique rapport.
Pour nous, merci beaucoup.
Première chose, les résultats sont moyens, mais ils sont stables. Depuis 2000, ils sont extrêmement stables. Ça veut dire qu'il faut arrêter de raconter que le niveau baisse. Ça n'est pas vrai. Il faut cesser le catastrophisme, ça use les profs, ça pose des problèmes de recrutement, de jouer avec les dénonciations permanentes. Il y a toute une série de motifs de satisfaction, je vous en donne un. J'ai regardé de près les résultats en lecture, écriture des jeunes issus de l'immigration, qui représentent 14% de nos jeunes à 15 ans, et dont un tiers d'ailleurs sont de milieux sociaux très défavorisés. Et on voit que leur différence de performance, une fois qu'on a neutralisé les caractéristiques sociales et qu'on reprend le critère issu de l'immigration, il y a 13 points de moins que la moyenne, alors que dans les autres pays de l'OCDE, c'est 24 points de moins. En d'autres termes, nos jeunes issus de l'immigration, notamment ceux de deuxième génération, réussissent à l'école bien mieux que ne le font leurs homologues dans les autres pays. Je pense que c'est une bonne nouvelle et qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce rapport et que ça serait intéressant de les regarder tout autant que l'autre question évidemment délicate qui est le fait que l'école n'arrive toujours pas à compenser les inégalités.
Alors comment améliorer les choses, Roland Guagou? Régulièrement, ce qui revient, mieux former les enseignants, investir dans les établissements prioritaires, investir dans les premiers niveaux d'éducation. Jean-Michel Blanquer a beau jeu de dire que c'est ce qu'il fait. Est-ce que les mesures prises ces derniers mois, ces dernières années, vont porter leurs fruits à échelle 5, 10, 15 ans?
PISA ne peut absolument rien dire de ça. On ne peut pas passer de PISA à 15 ans pour dire que ça légitime une réforme sur le cours préparatoire. C'était ce que nous avaient dit Darcos et Derobien, messieurs Darcos et Derobien, dans les années 2007-2009. Nous sommes aujourd'hui avec les jeunes qui ont fait leur cours préparatoire en 2009 sous cette mandature-là. Ils ne sont pas meilleurs, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, et je donne rendez-vous en 2027. Ce que je veux dire par là, c'est que PISA nous fait une photo de notre école, de son état, et elle ne nous donne pas des clés d'explication de causalité, de pourquoi c'est comme ça. Bien sûr, nos jeunes de milieux défavorisés sont très nettement moins performants que les jeunes de milieux favorisés. Mais dans ces jeunes de milieux défavorisés, beaucoup d'entre eux sont dans des lycées professionnels, beaucoup d'entre eux sont dans des établissements ségrégés. En d'autres termes, ils ont à la fois un niveau de performance différent, mais ils sont aussi dans des zones géographiques dans lesquelles l'habitat concentre la pauvreté et dans lesquelles leur choix d'orientation, PISA le montre, sont révisés à la baisse. C'est-à-dire que les ambitions des jeunes sont moindres que ce que leur niveau de performance leur permettrait d'espérer.
Roland
en d'autres termes, je finis juste une phrase.
Allez-y.
On a une école qui est exactement à l'image du pays. C'est une photo du pays qu'on a à travers PISA, de la fracture sociale de notre pays.
Et on voit, voilà. On voit aussi les autres pays. Est-ce qu'il y a de bonnes idées à prendre ailleurs, notamment dans le domaine qui est le vôtre de spécialité, l'enseignement de la lecture?
Oui, si on regarde cette question de des nouvelles pratiques, parce qu'en fait, ce sont des nouveaux usages. Les usages changent énormément. On a beaucoup de descriptions. Une chute vertigineuse des écrits sur papier, des écrits de magazines, de journaux, même d'emails. Les jeunes sont sur des écrits qui sont composites, avec du texte et d'images, avec des chats en ligne, avec des tas de formes. Et on évalue ces compétences sous des formes numériques, alors qu'on ne les enseigne pas. Donc oui, je pense qu'il y a à revoir un certain nombre de choses sur le fait d'ajuster les pratiques d'enseignement à des pratiques sociales qui sont celles des jeunes pour pouvoir prendre appui leur source du plaisir dans la lecture. Il n'est plus tout à fait le même que nos sources de plaisir à nous. Il va falloir peut-être s'interroger aussi sur celle-là.
Alors Roland Guagou, il y a un point étonnant, en tout cas on ne l'avait pas relevé les autres années, la question de la discipline qui perturbe l'enseignement. Qu'en dites-vous ?
Oui, je pense que les professeurs pourraient vous le décrire aussi. C'est pas toujours simple de faire classe face à des adolescents de 15 ans. Ils parlent aussi de leur expérience de collège, qui est un maillon fragile du système. Et on sait que le fait qu'il y ait du temps à consacrer à retrouver le calme fait baisser le temps d'apprentissage. Oui, je pense qu'il y a des problèmes de conduite de classe, évidemment. Et donc, bien sûr, aussi des questions de l'éducation au sens large. Je dis, c'est le pays tout entier qui est interrogé par ces résultats. Et évidemment, aussi de formation des enseignants.
Encore une question sur la méthode PISA et au fond, l'importance que peut avoir ce classement. Est-ce qu'il sert? Est-ce que c'est une référence permanente, là, dans les 3 ans à venir? Est-ce que dans les écoles de professeurs, on va dire en permanence, vous avez vu PISA, il faut faire ça, il faut faire ci?
La France n'a jamais beaucoup traité PISA comme une source d'information très, très importante. Il n'y a pas de choc PISA en France comme il y a eu dans d'autres pays.
En Allemagne, par exemple.
En Allemagne, oui. Oui, en Allemagne, qui d'ailleurs a des résultats moins bons que ceux de la France. Là-dessus, c'est une photo. Mais encore une fois, je pense qu'on a besoin d'autres recherches qui nous donnent des pistes d'explication de causalité. Et là, pour l'instant, on a des descripteurs. Est-ce que le fait que nos établissements soient ségrégés, que les jeunes les plus faibles soient dans des classes qui réunissent les jeunes les plus faibles, est-ce que c'est une source d'accroissement des difficultés des jeunes? C'est une hypothèse. Mais PISA ne nous permet pas de le conclure. Ça ne peut être qu'une hypothèse interprétative. Et il faut d'autres travaux pour passer de ce tableau descriptif à des pistes causales et à des hypothèses sur comment penser l'évolution du collège. Je pense beaucoup au collège en particulier. Ce qui est certain, c'est que la réforme du collège qui a eu lieu sous le mandat de Najat Vallaud-Belkacem n'a provoqué ni la dégradation que certains nous annoncer, ni l'amélioration espérée, la situation reste stable.
Merci Roland Guagou pour vos réponses et merci d'avoir épluché ce rapport pour nous. Je précise que les principaux enseignements de ce rapport, on les trouve également sur franceinter.fr. Nous sommes à J-2 avant le jeudi de tous les appels à la grève, les transports, les écoles, les palais de justice, cabinets d'avocats, commissariats, beaucoup d'entreprises privées. Les préavis sont très nombreux contre la réforme.